Merci d'écouter RFI. Midi en temps universel, il est 14h à Kiev. RFI Midi se poursuit tout de suite avec le journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Plus de livraison d'armes américaines ni de munitions à l'Ukraine. Tout est suspendu par les États-Unis. Cette aide militaire cruciale pour Kiev. Une manière pour Washington de faire pression. On est dans la capitale ukrainienne dans un tout petit instant. Côté européen, on s'organise. La Commission européenne a dévoilé un plan pour réarmer l'Europe. Objectif, mobiliser près de 800 milliards d'euros pour la défense. Autre genre de guerre, la bataille commerciale bel et bien lancée par les États-Unis avec de nouvelles taxes imposées à la Chine, au Canada et au Mexique et les premières mesures de riposte.
RFI.
À suivre aussi les pays de la Ligue arabe en sommet au Caire aujourd'hui pour la reconstruction de Gaza. En France, le décès de Jean-Louis Debré, figure de la droite gaulliste chiracien, ancien président de l'Assemblée et du Conseil constitutionnel, mais aussi écrivain. Et puis, il est l'une des relèves du rap anglais, Jeshi, le londonien, vient de sortir un deuxième album et c'est réussi.
C'est un coup dur pour l'Ukraine après le fiasco de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington.
Les États-Unis ont donc suspendu leur aide militaire à Kiev. Une pause, un gel des livraisons d'armes et de munitions. Bonjour Emmanuel Chaz.
Bonjour.
En direct de Kiev, le Premier ministre ukrainien a réagi.
Oui, tout à fait. Il y avait une conférence de presse du Premier ministre Denis Shmyhal. Il a rappelé que l'Ukraine était prête à signer un accord sur les minerais rares. Il a aussi dressé le bilan du progrès effectué par l'Ukraine pour assurer sa propre défense, notamment en matière de drones et de systèmes de brouillage utilisés sur la ligne de front, tout en répétant plusieurs fois la gratitude ukrainienne au peuple américain pour l'aide dont l'Ukraine a bénéficié jusqu'à présent. Alors, sans l'aide militaire américaine des États-Unis, sans l'aide américaine, pardon, la situation va être plus compliquée pour les soldats sur la ligne de front. Mais le Premier ministre rappelle qu'il s'agit ici d'une guerre de survie pour les Ukrainiens et qu'ils continueront à se défendre contre l'agresseur russe. Alors, au sein de la population, la désillusion est grande, mais cette décision américaine était plutôt attendue après la désastreuse rencontre entre Zelensky et Trump à la Maison-Blanche. Et les yeux de la population sont désormais tournés vers les autres alliés de Kiev, alors que le divorce avec Washington semble acté pour le moment avec cet alignement de la Maison-Blanche sur l'agenda de Moscou en ce qui concerne les conditions d'une paix en Ukraine.
Emmanuel Chaz en direct de Kiev, vous le disiez, désillusion pour les Ukrainiens. Le Kremlin, de son côté, estime que cette suspension est, je cite, la meilleure contribution pour la paix. Pour la Pologne, en revanche, cela crée une situation très grave. L'Estonie, elle, appelle l'Europe à combler le vide. L'Europe qui prépare un plan de réarmement. Et avant un sommet extraordinaire de l'UE. Là, ce jeudi, la présidente de la Commission a présenté les grandes lignes tout à l'heure. Jean-Jacques Herry, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Ursula von der Leyen veut mobiliser près de 800 milliards d'euros. Cela représente, pour vous donner une idée, trois fois le PIB du Portugal. Quels sont, Jean-Jacques, les principaux points de ce plan de réarmement ?
Eh bien, d'abord, une souplesse budgétaire sera accordée aux États membres pour les dépenses de défense. Autrement dit, il y aura une dérogation au pacte de stabilité européen, le fameux pas plus de 3% de PIB du déficit. Eh bien, il y aura une dérogation pour offrir une meilleure marge budgétaire. Si les États dépensent pour leur défense, on n'ira pas leur taper sur les doigts pour déficit excessif. Car il faut le rappeler, tout ne sera pas financé par des fonds européens. Loin de là, la défense étant une prérogative nationale des États membres. Sur les 800 milliards d'euros qui seront mobilisés grâce au plan, 150 le seront sous forme de prêts à disposition des 27 dans le cadre d'un nouvel emprunt commun qui pourrait ressembler à celui souscrit pour faire face au Covid. L'idée, c'est de favoriser des achats groupés dans la défense antiaérienne, les missiles, les systèmes antidrones ou l'artillerie avec un triple objectif de fourniture rapide de matériel militaire à l'Ukraine, de réduction des coûts et d'amélioration de l'interopérabilité des armées européennes, c'est-à-dire de leur capacité à travailler ensemble. Autre piste évoquée, la réorientation de sommes déjà budgétées par l'Union européenne vers le financement de la défense. Cela pourrait être le cas, par exemple, des fonds de cohésion. Normalement, ils sont versés aux pays pour développer les régions les plus défavorisées. On n'a pas, pour l'instant, d'informations sur les montants en jeu sur ce reversement possible. Par ailleurs, la Banque européenne d'investissement pourrait maintenant commencer à prêter de l'argent dans le cadre de projets liés à la défense. Là aussi, c'est nouveau. Jusqu'à présent, elle n'en avait pas le droit. Et puis enfin, Ursula von der Leyen a évoqué une mobilisation de capitaux provenant du secteur privé, sans plus de détails.
Jean-Jacques Herry en direct de Bruxelles. Et dans le débat également, il y a le partage ou non de la dissuasion nucléaire française. Le président Emmanuel Macron veut ouvrir un dialogue avec d'autres pays européens. Là-dessus, c'est un débat très sensible en France. L'ex-ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, en tout cas, est contre. Il était notre invité ce matin.
La décision de dissuasion ne peut pas se partager. Il faut un dissuadeur crédible. L'incarnation de la dissuasion ne peut pas se partager, sinon il n'y a plus de dissuasion. Il y a un débat qui est complètement différent, c'est est-ce que notre dissuasion, on va protéger d'autres que le territoire national et nos intérêts vitaux. La seule question à se poser, c'est est-ce que c'est crédible du point de vue de l'agresseur potentiel ? C'est ça la question. En tout cas, il ne faut pas se placer du point de vue des gens qu'on a envie de protéger ou qui remercieraient, vous voyez ? Ou qui sont demandeurs. Il faut se placer du point de vue de l'agresseur potentiel dans le débat des prochaines semaines. Qu'est-ce qui serait vraiment crédible du point de vue d'un agresseur potentiel ?
Voilà l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, invité d'Arnaud Pontus.
Les droits de douane sont ses mots favoris. Donald Trump l'avait dit pendant sa campagne. Eh bien, après les menaces, le président américain est passé à l'action.
Avec des taxes de 25% sur les produits en provenance du Canada et du Mexique, pour les importations chinoises, les droits de douane là sont passés de 10 à 20%. Conséquences immédiates sur les bourses du monde entier. Ottawa a promis de riposter. Justine Fontaine, Pékin a aussi annoncé des représailles.
Oui, Pékin vise une partie de l'électorat de Donald Trump, les agriculteurs. Dès lundi prochain, la Chine va ainsi taxer toute une série de produits agricoles américains. Plus 15% de droits de douane pour le blé, le maïs, le coton, le poulet et plus 10% pour le soja, le bœuf, le porc ou encore les fruits de mer. Dans cette liste, les céréales et oléagineux comme le soja, c'est justement le principal secteur d'exportation américaine vers la Chine avec les produits pétroliers. Autre mesure de représailles, Pékin interdit à 25 entreprises américaines supplémentaires, principalement dans la défense, de mener de nouveaux investissements en Chine. Le gouvernement les accuse de vendre des produits à Taïwan, île indépendante de facto, mais que Pékin considère comme l'une de ses provinces. Cela dit, toutes ces représailles restent assez limitées, Charlotte. D'abord, les droits de douane imposés par la Chine sont plus faibles que ceux imposés par Washington. Ensuite, ils sont très ciblés, contrairement à ce qu'a fait la Maison Blanche, qui, elle, vise tous les produits chinois, sans exception.
Une annonce de Pékin, alors que débute l'événement politique de l'année en Chine, à ce qu'on appelle les deux sessions réunions parlementaires ouvertes, donc en grande pompe dans la capitale chinoise.
Israël maintient sa pression sur Gaza et sur le Hamas. Après le blocage de l'aide humanitaire, l'État hébreu menace de couper l'électricité dans le territoire palestinien.
Et c'est dans ce contexte, alors que l'avenir de la trêve semble très incertain, qu'un sommet de la Ligue arabe est prévu cet après-midi au Caire, où l'on vous retrouve, Alexandre Bouchanti. Les dirigeants de la Ligue arabe vont discuter d'un plan pour Gaza, d'une alternative à la proposition américaine de déplacer les habitants du territoire pour en faire, on se rappelle, des mots du président américain, pour en faire une Côte d'Azur du Moyen-Orient.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un plan justement alternatif. C'est un plan égyptien pour la reconstruction de Gaza sans expulser les habitants. C'est en fait le document principal qui va être soumis au chef d'État. Alors un plan qui a déjà recueilli l'approbation quasi générale des ministres des Affaires étrangères. Il consiste à créer des zones d'habitation temporaires avec des tentes et des préfabriqués pour les Gazaouis. Ensuite, les engins de chantier venus d'Égypte commenceront à déblayer quartier par quartier pour installer des infrastructures et reconstruire les bâtiments détruits pour la plupart. Un plan qui va s'étaler sur 5 ans. Toutefois, les choses sont moins claires en ce qui concerne l'autorité qui va gérer Gaza. Une commission neutre de technocrates palestiniens est proposée. Mais le Hamas n'a toujours pas officiellement accepté d'être écarté du pouvoir. Et puis, le sommet va aussi appeler à la tenue au Caire d'une conférence internationale pour financer la reconstruction de Gaza.
Et on suivra ce sommet de la Ligue arabe avec vous, Alexandre Bouchanti, au Caire. Parallèlement, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, partisan d'une ligne très dure et d'une annexion par Israël de la Cisjordanie occupée, est en visite éclair. Ce sont ces termes aux États-Unis. Et puis au Liban, l'agence officielle vient de signaler une frappe israélienne qui a fait donc un mort selon l'agence à tir. C'est dans le sud du pays, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre.
RFI. Le Monde à midi.
Une séance très agitée au Parlement en Serbie tout à l'heure, sur fond de manifestations dans le pays contre la corruption. Scène chaotique au premier jour de la session. Des membres de l'opposition ont allumé des fusées éclairantes et tiré des gaz lacrymogènes suite d'une longue série de protestations depuis l'effondrement meurtrier du toit de la gare de Novi Sad en novembre dernier. En France, dans la famille Debré, il y avait le père, Michel, résistant, figure de la Ve République. Et parmi les fils, Jean-Louis Debré, lui aussi personnalité marquante de la vie politique. Jean-Louis Debré, décédé la nuit dernière à 80 ans. Il aura eu plusieurs vies, député, ministre, président de l'Assemblée, président aussi du Conseil constitutionnel, mais aussi auteur, entre autres, du dictionnaire amoureux de la République.
La République, c'est ce qui nous rassemble. C'est le pacte qui fait que, malgré nos différences, nos oppositions, on se croise dans la rue, on peut s'exprimer, on peut dire ce que l'on pense. Voilà, pour moi, la République, c'est une façon de vivre. La République, elle est toujours en construction, parce qu'elle est confrontée à des réalités aujourd'hui. Et ces réalités changent. Et donc la République d'il y a un siècle et demi n'a pas les mêmes contours que la République d'aujourd'hui. Et la force de la République, c'est d'essayer de s'adapter.
Jean-Louis Debré, décédé donc à l'âge de 80 ans. Et cette réaction, il y a un instant, du président Emmanuel Macron qui a salué la mémoire de Jean-Louis Debré, qui a consacré, écrit-il, sa vie à une certaine idée de la France.
Comment en est-il arrivé là ? L'interrogatoire de Joël Lescoirnec se poursuit au tribunal de Vannes, dans l'ouest de la France.
Cet ancien chirurgien accusé de viol, d'agression sexuelle sur près de 300 patients, essentiellement des enfants à l'époque. Ce procès, vous le suivez à Vannes, Laura Martel. Durant sa carrière, pendant plus de 30 ans, Joël Lescoirnec a travaillé dans plusieurs établissements, publics et privés. Et ce matin, la Cour a essayé de déterminer en quoi ce parcours professionnel aurait pu être dicté par ses penchants pédocriminels.
Et la présidente revient d'abord sur son départ précipité de la clinique de Loche dans le centre de la France pour Vannes en avril 94, alors que son contrat se terminait en août. Or, l'année 94, c'est l'un des carnets intimes que l'accusé a détruit. Il y a ce départ rapide, on parle de litige. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir à 400 km? Vous avez pensé avoir été surpris dans vos actes, interroge la magistrate. Absolument pas, répond Joël Lescoirnec, qui plaide un conflit avec un collègue. Vous avez essentiellement travaillé dans de petits établissements, en mal de praticiens. On peut se demander si vous avez délibérément choisi des structures peut-être moins regardantes, relance la présidente. Nouveau démenti. Les questions s'enchaînent ensuite sur un même thème. Comment l'accusé peut-il se décrire envahi par sa pédocriminalité assouvie sur ses patients et soutenir que ça n'a eu aucune incidence sur sa pratique? Ce sont deux choses qui se juxtaposent, répète l'ancien chirurgien qui tente d'expliquer. Je sais que c'est inconcevable et ça ne me dédouane en rien, mais ma pédophilie n'a jamais interféré dans mon activité professionnelle, hormis le fait que j'ai profité de mon statut pour commettre des agressions. Mais je passais à l'acte sur les patients présents. Je n'ai jamais pris de décision médicale pour avoir accès à un enfant.
Laura Martel en direct du tribunal de Vannes, donc pour ce procès de Joël Lescoirnec. La justice encore et le parquet qui requiert un procès pour meurtre contre le policier qui avait tiré sur Naël. Vous savez, ce jeune homme tué en juin 2023, devenu un symbole des violences policières, sa mort avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes à travers le pays.
Airbag woke me up, l'airbag m'a réveillé, c'est notre choix musical du jour, Charlotte.
C'est le titre du nouvel album, le deuxième de Jechi, il est le nouveau visage, l'une des relèves du rap britannique, un jeune londonien en pleine ascension, José Mourinho.
Jechi est un musicien londonien autodidacte, bientôt trentenaire, influencé par les scènes grime, drill, mais aussi pop-rock et trip-hop. Il échappe au carcan rap. Il a été révélé en 2016, puis connaît le succès international 6 ans plus tard avec ça. Ce qui fait le sel de ce deuxième album, ce sont ces textes qui racontent une Angleterre à la dérive, celle de l'ultralibéralisme et des jeunes paumés dans les banlieues, celle aussi des gueules de bois qui trempent leur avenir au pub à l'image de ce titre. C'est à travers l'histoire de sa famille que ce métis développe une analyse éclairante sur l'Angleterre. foyer fauché, père ouvrier jamaïcain, mère assistante sociale anglaise. Jeshi parle moins d'allocation chômage et un peu plus d'amour, certes, sur ce projet, mais en profite pour renouer avec son audace musicale et fait preuve d'une étonnante richesse vocale. Too much turbulence on my plane. Life don't need a better grade. Way too much to assimilate. Say I always play the victim game. Always me, overstay. Supposed to leave. Tesco's out getting groceries. Fancy a little bit of butchery and some broken beach.
Jeshi, en tournée internationale, il sera notamment en concert le 11 mars en Irlande, le 22 mai à Paris.
Merci Charlotte Hydrac. Ici à Paris, il est 13h15. Et on va parler de l'actualité sportive. Bonjour Christophe Diremzo.
Bonjour Anne.
Avec du football pour commencer, c'est parti pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Il y a quatre matchs au programme aujourd'hui et notamment un derby madrilène.
Real Atlético, un menu 100% espagnol dans un contexte de rivalité à la fois européenne et nationale. Les deux équipes se livrent actuellement à une lutte au couteau pour le titre en Liga avec avantage pour l'instant aux Colchoneros. Mais sur la scène continentale, c'est toujours le Real qui a pris le dessus en remportant notamment les finales en 2014 et 2016. Dans la clameur du stade Santiago Bernabéu, le milieu de terrain de l'Atlético, Rodrigo De Paul, s'attend évidemment à une bataille difficile, mais il est surtout impatient de disputer ce match.
On sait qu'on va affronter un adversaire incroyable dans un stade magnifique. C'est un derby. Beaucoup de fans vont regarder et les deux équipes sont très enthousiastes à l'idée d'y participer. Le Real est une équipe qui connaît cette compétition par cœur. C'est une des rencontres que tous les joueurs aiment, mais qui nous laisse épuisés, car elle demande une extrême concentration et un investissement total. Mais nous sommes prêts, on a hâte d'en découdre.
Rodrigo De Paul, à quelques heures de Real Atlético de Madrid, coup d'envoi 20h, temps universel.
Au même moment, Lille affrontera le Borussia Dortmund et l'ambiance parfois survoltée de son stade.
Les nordistes vont se retrouver au pied du mur. Jaune, ces tribunes de supporters du Signal Iduna Park, parées de la couleur fétiche du Borussia, et vont tâcher de ne pas aller droit dedans. Face à l'actuel 10e de Bundesliga, l'équipe de Niko Kovac n'est certes pas la plus solide de la saison, mais avec un atout offensif comme le Guinéen Serou Girassi, meilleur marqueur de cette édition de la Ligue des Champions pour l'instant avec 10 buts. Il y a de quoi se méfier pour les Lillois, pourtant vainqueurs du Real et de l'Atlético en phase de Ligue. Mais l'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, rappelle que son équipe a gagné sa place et qu'il faut donc en profiter.
On est dans les 16 meilleures équipes européennes. C'est aussi pour vivre ce genre de moment qu'on est là, qu'on fait ce métier. J'ai jamais joué ici, enfin, je suis jamais venu ici dans ce stade, mais je sais, pour en avoir parlé avec ceux qui l'ont fait, que c'est assez impressionnant. Mais je crois aussi que c'est dans ces moments-là qu'on voit les bonnes équipes, les bons joueurs et les gens qui sont capables de se transcender aussi, même si ce sera une ambiance peut-être un peu, on va dire, hostile. Mais on aura aussi 4500 supporters et aussi pour eux, il faudra gérer nos émotions dans les temps forts de notre adversaire.
Bruno Genesio avec notre envoyé spécial Babacar Diarra.
Troisième match programmé en soirée, PSV Eindhoven, Arsenal.
Les Gunners, dauphins éloignés de Liverpool en Première Ligue, ont quasiment dit adieu à leur chance de titre en championnat et vont donc tout miser a priori sur l'Europe. Mais les Néerlandais, tombeurs tout de même de la Juventus Turin en barrage, ont un moral gonflé à bloc et de la motivation à revendre, à l'image de l'attaquant croate Ivan Perisic.
Vous savez, la Ligue des Champions, c'est incroyable. Je l'ai gagné avec le Bayern et c'est vraiment spécial. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous donne beaucoup plus d'énergie. Et quand on entend cette chanson, cette musique avant le match, c'est particulier. Nous sommes donc prêts à tout donner. Ça va être dur. C'est vraiment une très bonne équipe en face jeune, avec un bon entraîneur. Mais ces dernières années, il leur manque toujours quelque chose pour gagner un titre. Vous savez, je pense que nous avons une bonne chance de battre Arsenal. Je crois vraiment en mon équipe. Nous nous sommes bien entraînés et tactiquement, nous devrons être à notre plus haut niveau pour faire face contre eux.
Ivan Perisic, l'attaquant du PSV Eindhoven, cette soirée de Ligue des Champions ouvrira dès 17h45, temps universel avec les Belges de Bruges contre Aston Villa.
Merci Christophe Diremzian. L'actualité sportive est aussi sur internet rfi.fr. 13h19, tout de suite notre invité.
RFI. Le Monde à midi.
Bonjour Pierre Servant.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire. Vous avez écrit « Le monde de demain, 12 repères pour comprendre les conséquences de la guerre en Ukraine ». Le livre est paru aux éditions Robert Laffont. Les Européens ne cachent pas leur inquiétude ce matin après la décision de Donald Trump de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine. Alors, il faut préciser qu'il s'agit d'une aide qui avait été approuvée par la précédente administration démocrate, livrée déjà en grande partie. Mais est-ce que ça va se sentir quand même sur le terrain ?
Oui, ça va se sentir, même si effectivement on parle de 3 milliards et demi de dollars qui seraient gelés. Mais ce qui est très important pour les Ukrainiens, c'est un afflux permanent, âgé continu, si vous voulez, de munitions pour l'artillerie, pour les chars de combat et des missiles à la fois pour les lance-roquettes multiples et pour le Patriot qui permet de détruire des missiles balistiques russes dans le ciel. Donc ça va pénaliser la défense russe et le paradoxe, c'est que le président Trump, qui n'arrête pas de dire que cette guerre est horrible, qu'il y a des tas de morts, très concrètement, cette décision va entraîner la mort, très concrète malheureusement, d'Ukrainiens.
Donc là, on parle bien d'armes qui sont essentielles au quotidien.
Oui, ce sont des armes essentielles. Alors, dans le flux des dernières livraisons, il y a différentes choses. Il y a également des véhicules blindés, etc. Mais c'est notamment cet approvisionnement en munitions de différents types qui est touché. Or, par exemple, pour défendre le ciel aérien ukrainien, qui est frappé tous les jours par des drones, des missiles de croisière, des bombes planantes lâchées par l'aviation russe, pour arriver donc à limiter les dégâts, les Ukrainiens ont besoin de systèmes de défense sol-air. Alors, ils ont des systèmes européens, français notamment, qui existent, mais le Patriot américain est très important. Et donc, la question va se poser de savoir dans les jours qui viennent, c'est est-ce que les pays européens qui ont des patriotes, je pense à l'Allemagne, vont pouvoir fournir en compensation à l'Ukraine donc des missiles pour continuer à tirer et intercepter tous les vecteurs ennemis qui sont dans le ciel.
Dès ce matin, l'Estonie a appelé l'Europe à prendre le relais. Est-ce qu'elle en est capable ? Est-ce qu'elle dispose de suffisamment d'armes et notamment de ce type de système de défense ?
Alors non, par exemple, les Européens n'ont pas le système HIMARS de lance-roquettes multiples américains avec une portée de 300 km. Les Européens ont des Patriotes, mais les pays qui en ont sont des armes qui valent très très cher et pour l'instant ils préfèrent les conserver. Donc il faudra à mon avis faire deux choses, puisque les Ukrainiens ont encore, je dirais, pour 6 mois de dotations militaires qui leur permettent de faire face aux différentes offensives russes. Donc il faut dans ce laps de temps que les Européens achètent assez massivement hors d'Europe, parce qu'on n'a pas suffisamment de munitions ou de missiles ou de drones en Europe. Donc il faut acheter ailleurs, par exemple en Corée du Sud ou dans d'autres pays amis, pour fournir aux Ukrainiens, pour qu'il n'y ait pas de rupture, qu'ils puissent reconstituer leur stock. Et puis il faut s'inscrire dans la durée, et la durée, c'est la durée de ce que j'appelle la trahison de Donald Trump, qui véritablement lâche l'Ukraine pour essayer de faire pression sur elle. Et donc, il faut que les Européens s'inscrivent dans un temps moyen court de régénération encore plus forte de leur propre armement pour substituer. Il n'y aura pas exactement les mêmes matériels, mais pour vous donner un exemple, les Allemands disposent d'un missile de croisière qui s'appelle Taurus. On en a beaucoup parlé parce que le chancelier actuel, Scholz, s'était refusé à donner ce missile de croisière aux Ukrainiens. Le futur chancelier Merz y est favorable. Donc en fait, il faudra diversifier les armements sans pouvoir exactement compenser la fin de l'aide américaine. Si cette fin d'aide américaine est confirmée, pour l'instant, c'est une suspension.
Et les stocks sont suffisants ?
Non, les stocks sont pas suffisants. C'est pour ça qu'il faudra acheter hors de l'Union européenne, parce que on n'a pas suffisamment de stocks pour compenser cette perte. Alors on a 6 mois, puisque l'administration Biden avait accéléré le processus de transfert des armements qui avait été voté par le Congrès. Donc ils en ont donné, si vous voulez, aux Ukrainiens plus que nécessaire. En prévision du pire, le pire étant l'arrivée de Trump. Donc, il n'y a pas péril en la demeure pour les 6-8 mois qui viennent. Et dans cette période,
c'est maintenant qu'il faut que les Européens prennent les devants. Certaines des armes, enfin les armes américaines d'ailleurs, toutes passent par la Pologne avant d'arriver sur le sol ukrainien. Est-ce que Varsovie est autorisée aujourd'hui et dans les mois qui viennent à livrer celles qui se trouvent actuellement en transit dans le pays ?
Non, pour l'instant, l'administration américaine a gelé tout ce qui était au départ aux États-Unis et tout ce qui était en transit et même tout ce qui était en attente en Pologne, ce qui, entre parenthèses, pose un problème de droit, puisque le Congrès a voté l'envoi de ces armes. Ces armes ont été envoyées de façon tout à fait légale. Et la question se pose de savoir si la nouvelle administration Trump a le droit de bloquer des livraisons d'armes qui ont été prévues. Mais le droit et Trump, ce sont deux choses très différentes. Donc non, la Pologne ne peut pas prendre sur elle de livrer ses armements. Washington a dit « Niet, vous ne bougez pas ».
On en voit déjà des effets de cette décision. Ce matin, le Premier ministre ukrainien rappelle qu'il faut des garanties. Ça, c'est ce que demande Kiev depuis des semaines et des semaines. Mais le chef du gouvernement assure aussi que l'Ukraine est prête à signer à tout moment l'accord sur les exploitations des minerais ukrainiens qui est réclamé par Donald Trump, qui aurait dû être signé vendredi dernier avant qu'ait lieu donc cette altercation très brutale à la Maison-Blanche. Est-ce que ça sera toujours comme ça à l'avenir? Ce soutien américain qui était inconditionnel ou quasiment, va se négocier?
Oui, on est vraiment, si vous voulez, avec le président Trump, dans une perspective de pure négociation, sans aucun, aucune valeur partagée. Il fait du business, mais il y a un point qui est très important et qui rend la question que vous posez très complexe, c'est que Donald Trump et l'administration américaine clairement disent aujourd'hui il faut que le président Zelensky dégage. Donc c'est pas simplement faut qu'on trouve un meilleur moment pour signer l'accord sur les terres, les minéraux rares, c'est qu'il y a vraiment des déclarations qui sont des déclarations de déstabilisation du président Zelensky, donc ça rend les choses extrêmement complexes. Donc vous voyez bien que là on est dans une séquence.
Vous pensez que c'est quelque chose que souhaite vraiment l'administration Trump? Ça n'était pas un moyen de faire pression, ces appels à la démission de Volodymyr Zelensky qu'on a entendu ces derniers jours?
Non, moi je pense qu'il y a, on l'a vu dans ce qui s'est passé dans le bureau ovale à Washington, il y a vraiment une détestation, pour ne pas parler de haine, vraiment très nette entre le président, le vice-président et Zelensky, pour des dossiers d'ailleurs anciens qui remontent à la première présidence, et aussi parce que le président Trump a renvoyé le secrétaire du Trésor américain qui était venu pour lui faire signer des cessions absolument scandaleuses de ces minéraux et de ces terres rares. Donc le président Zelensky a refusé, il est reparti.
Et dès ce moment-là d'ailleurs, en effet, voilà, effectivement, on avait entendu une colère très forte et un blocage presque du côté de l'administration américaine. Je vous remercie beaucoup Pierre Servent d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Le Monde de Demain, 12 repères pour comprendre les conséquences de la guerre en Ukraine, paru chez Robert Laffont.
RFI, Le Monde à midi.
Dans 3 minutes, l'actualité africaine, mais avant on va faire un tour au cinéma, parler d'un film très attendu qui sort cette semaine dans les salles françaises, Mickey 17, nouveau long-métrage du coréen Bong Joon-ho, réalisateur du génial Parasite. Cette fois, il raconte l'histoire d'un homme cloné à de nombreuses reprises aux ordres d'un politicien mégalomane et d'un gourou technophile. Il est possible que ça fasse écho à l'actualité du moment, Olivier Roger.
Mickey, interprété par Robert Pattinson, est un jeune homme paumé. Il embarque sur un vaisseau spatial et pour payer sa place, accepte de devenir un remplaçable, c'est-à-dire un clone.
Vous postulez pour devenir un remplaçable ?
Oui.
Et vous avez lu tout le formulaire ?
Eh bien non, il ne l'a pas lu et il va vivre et mourir 17 fois servant de cobaye aux ingénieurs. Il meurt pour être réimprimé aussitôt en conservant intacte la mémoire de ses vies passées.
Ça fait quoi de mourir ?
Fable philosophique, le film devient rapidement satirique politique, car le vaisseau est dirigé par un gourou technophile, politicien raté et mégalomane, aux accents trumpiens et aux attitudes muskiennes. Le personnage interprété par Mark Ruffalo nous ramène brutalement à une actualité bien terrestre.
On a tourné ce film il y a 3 ans et tant de choses sont prémonitoires. Si on m'avait dit il y a 3 ans que l'on vivrait ce qu'on vit aujourd'hui, je vous aurais dit que c'est impossible, mais on y est.
Entre cauchemars transhumanistes et farces dystopiques, le coréen Bong Joon-ho étale toute sa maîtrise des films de genre dans un scénario délirant où les méchants aliens sont les humains.
Olivier Roger, pour parler donc de ce nouveau film de Bong Joon-ho. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 30 secondes pour l'actualité africaine sur RFI. À tout de suite.
Ce mardi sur RFI.
Pourquoi et comment chasser les neutrinos ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Rencontre avec Kumiko Kotera. La nouvelle directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris nous fait partager une révolution astronomique, celle de l'observation multimessager ou comment comprendre les phénomènes les plus spectaculaires de l'univers.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.